On va maintenant revenir sur le meurtre de Liana, la colère qui ne retombe pas, la mise en garde du président de la République, Emmanuel Macron aussi. Et d'abord, nous allons retrouver Isor de la Gorce, qui est à Mélanie Bertrand, pardon, qui est à Puy-Casquier, dans le Gers, puisqu'il y a un nouvel hommage qui se met en place, Mélanie.
Oui, dans une heure environ ici, dans cette petite commune de Puy-Casquier, les habitants sont appelés à venir se recueillir, à partager un temps d'émotion. C'est le maire de la ville qui a tenu à organiser cette cérémonie. Pourquoi ? Parce qu'il nous le disait tout à l'heure, nous sommes bouleversés et attristés et les habitants avaient vraiment besoin de ce temps d'échange, de recueillement ici sous les halles du village. Il y aura la lecture d'un poème de Paul Éluard, la diffusion de musique et notamment une chanson de Jean-Jacques Goldman et aussi une minute de silence. Vous le savez, Puy-Casquier, c'est là que le corps de la petite Liana a été retrouvé la semaine dernière au pied d'un silo agricole. Nous y sommes allés tout à l'heure et c'est devenu en quelque sorte un lieu de mémoire. Il y a beaucoup de fleurs, de petits objets, des petites peluches, des petits mots qui ont été déposés au pied de ce triste bâtiment. Et nous avons aussi croisé une mère de famille qui est venue de Toulouse avec ses deux enfants. Elle est venue déposer des fleurs blanches. Elle ne connaît pas du tout la famille de Liana, mais pour elle, c'était évidemment important de venir et de tenter par sa présence de leur insuffler de la force. On va écouter son témoignage au micro de Valentine Ribbe.
C'était rendre hommage à cette petite fille qui a fait confiance, parce que les enfants, ils font confiance aux adultes. Hein. C'est penser à eux, c'est par notre petit geste leur montrer qu'on est. Je me dis, on leur envoie de l'énergie, on leur envoie un peu d'amour, on leur envoie quelque chose qui peut-être va les aider, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, quoi.
Et on verra tout à l'heure, hein, si dans une heure il y a du monde ici. C'est un tout petit village, 400 habitants, mais on a senti une vraie émotion. Les obsèques de la petite fille auront lieu vendredi après-midi.
Merci Mélanie Bertrand avec Annel Latenon en direct depuis Casquier.
Et puis précision, hein, l'avocat de la famille de la collégienne confirme que les obsèques de Liana se tiendront bien vendredi dans la plus stricte intimité à la demande de la famille. C'est l'avocat des parents qui le précise. Alexandra Gonzalez, il faut aussi parler de la famille Barella maintenant, du frère mais aussi du père de Jérôme Barella. On a appris par exemple que le frère de Jérôme Barella venait d'être mis en examen.
Oui, il a fait l'objet d'une plainte en 2024, une plainte visiblement oubliée, puisque pendant 2 ans, il ne s'est visiblement rien passé, en tout cas pas de garde à vue, pas d'interpellation le concernant, jusqu'à il y a 3 jours où cet homme, frère de Jérôme Barella, avec qui n'a plus vraiment de liens familiaux, nous dit-on, a été placé donc en garde à vue parce qu'une femme qui a eu une relation conjugale avec lui dénonce des viols conjugaux commis, selon elle, entre 2007, alors qu'elle avait 17 ans seulement, et 2011. Et pendant cette enquête, eh bien, une deuxième femme est venue dénoncer des faits similaires qui, pour elle, se seraient déroulés en mars 2018. Donc, des viols conjugaux pour ces deux femmes concernant le frère de Jérôme Barella, viol sur mineur, puis viol commis par conjoint, viol sur mineur parce qu'elle avait 17 ans au moment des faits. Il a été en garde à vue pendant 2 jours. Lui a parlé uniquement de relations consenties. Il a nié tout viol. Pour autant, il a été mis en examen. Et contre l'avis du parquet d'Agen, qui avait demandé un placement en détention provisoire le concernant, eh bien, le juge des libertés et de la détention a décidé de remettre cet homme mis en examen pour viol sur mineur et viol sur conjoint en liberté, sous contrôle judiciaire. Le parquet d'Agen a fait appel, mais il va y avoir un certain délai avant que cet appel ne soit réexaminé.
Donc pour l'instant, il y a le frère de Jérôme Barella et il y a le père de Barella qui, lui, avait été accusé de viol, on l'a appris, par une de ses petites filles. En 2013, il avait obtenu un non-lieu.
Oui, il avait fait l'objet, lui, d'une... Donc le grand-père, le père de Jérôme Barella, avait fait l'objet d'une plainte par l'une de ses petites filles.
C'est une des filles de Jérôme Barella ?
Ça doit être une nièce de Jérôme Barella. Une petite fille qui a accusé son grand-père d'inceste commis au domicile familial pendant 3 ans, alors qu'elle était mineure. Il y a eu une enquête, une instruction judiciaire qui a été menée. Durant cette instruction judiciaire, le grand-père Barella n'a jamais été mis en examen. Il a été placé sous un statut intermédiaire qu'on appelle le statut de témoin assisté. Et puis, à la fin de cette instruction judiciaire, 8 ans Eh bien, au bout de ces 8 ans, le juge d'instruction a décidé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour faire juger cet homme qui a aujourd'hui une 60aine d'années. Et donc, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu pour des faits d'inceste, donc dénoncés par la petite fille contre le grand-père Barella, le père de Jérôme Barella.
Madame Maître Gajbinay, vous êtes restée avec nous. Parce que je rappelle, juste avant, vous êtes l'avocate de deux plaignantes contre Patriol, mais là, vous représentez aussi une enfant victime présumée de Jérôme Barella.
Exactement.
Où est-elle dans ce dossier, pardon de vous le demander de manière un peu naïve comme ça?
C'est l'enfant qui est placé aujourd'hui à l'ASE et qui a dénoncé des faits en février dernier. Un signalement a été fait par l'ASE au procureur de la République en mars 2026 pour des faits qui auraient eu lieu en août 2025.
Et on apprend donc que la famille Barella, finalement, se trouve impliquée dans des affaires de viol, d'agression sexuelle. Ça paraît sidérant.
Malheureusement, on est dans ce genre de famille dite incestuelle, où il y a des violences sexuelles de père en fils. On ne le sait pas. Aujourd'hui, aucun n'est condamné. Et encore une fois, il y a la présomption d'innocence.
Vous dites que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire,
non,
malheureusement.
C'est extrêmement fréquent. Et c'est extrêmement fréquent que ces familles passent entre les mailles du filet. Parce que voilà, vous avez parfaitement résumé la situation et les faits. Il aura fallu la mort de cette petite Liana pour découvrir l'ampleur de la situation.
Et on en est qu'au début, selon vous ?
Je pense qu'on en est qu'au début, oui. J'aimerais bien qu'on entende cette petite fille qui doit être dans un état extrêmement troublé par ce qu'elle vient d'entendre, parce qu'elle a su dénoncer les viols de son grand-père, parce que dans ces familles-là, c'est extrêmement difficile de parler. Hein. Personne ne parle. Mmh. Et quand il y en a un qui parle, généralement, tout le monde lui tourne le dos. Une instruction qui dure 8 ans pour finir sur un non-lieu. Un trauma extrêmement sévère, sûrement, sur cette jeune fille.
Alors, il y a une députée qui a poussé un coup de gueule hier à l'Assemblée nationale, c'est Laure Miller, et on voulait être avec elle ce soir, députée ensemble pour la République de la Marne. Laure Miller, bonsoir, merci d'être avec nous. On va réécouter ce que vous avez dit hier à l'Assemblée nationale.
J'ai plus du tout envie de suivre mon propos parce que je suis... j'ai honte. J'ai honte de l'image qu'on donne. Il y a des hommes, des femmes, beaucoup de femmes qui se sont déplacées probablement pour la première fois de leur vie devant un palais de justice pour nous demander d'agir en responsabilité et de protéger nos enfants. Et depuis 15 heures, on se renvoie la balle comme des gamins dans une cour d'école. On cherche des responsabilités individuelles. Et en fait, j'imaginais, mais avec beaucoup de naïveté sans doute, qu'on allait être constructif enfin, parce que je crois que c'est ce que les gens attendent de nous sur un sujet comme celui-ci, qu'on se tende la main, qu'on se mette tous autour d'une table pour travailler pour nos enfants. C'est pas un sujet politicien, c'est un sujet d'ampleur, de grande ampleur, et voilà, j'imaginais qu'on allait avoir ça, et en fait j'ai honte, et je voudrais m'excuser parce qu'on a donné une image, mais déplorable. Il y a déjà plus beaucoup de Français qui croient encore en la politique, mais je crois que ce qu'on est en train de donner comme image de la politique, c'est vraiment un désastre. Donc je suis désolée. Et si être députée, c'est ça, eh bien je ne suis pas, je ne me sens pas députée, je me sens citoyenne et je suis vraiment déçue.
Madame la députée, vous visiez qui en disant « j'ai honte, on ne donne pas une bonne image » ?
Bah, je visais en effet certaines des interventions qu'on a pu entendre hier à partir de 15 heures du début des questions au gouvernement, mais c'était, je pense, un peu un ras-le-bol généralisé. Surtout depuis ce drame de cette jeune fille de Liana, je pense qu'on est passé dans une autre dimension. Enfin, j'ai eu cette impression, en tout cas, en particulier quand j'ai vu les gens qui se déplaçaient lundi devant les palais de justice. C'était des hommes et des femmes que je pense on n'avait jamais vus dehors dans une manifestation. Et qui venaient en toute sincérité parce qu'ils sont pères, parce qu'ils sont mères et parce que il y a un moment de basculement, je crois, sur ce sujet-là, des violences faites aux enfants. Et il me semble qu'on aurait pu être à la hauteur de ce moment-là et se rendre compte que les gens attendent de nous enfin de l'action et une action concertée et en commun. Je crois que c'est pas un sujet de droite ni de gauche et que ça mériterait en fait qu'on discute ensemble et qu'on travaille ensemble.
Oui, Madame la députée, il y a déjà des mesures qui ont été annoncées, notamment par Sébastien Lecornu, qui veut durcir la loi, qui annonce aussi un prochain décret pour motiver les classements sans suite de plaintes pour des crimes sexuels. On parle aussi d'une loi qui était déjà sur la table et qui pourrait être votée. C'est important ou est-ce qu'il faut faire attention à légiférer dans l'émotion, comme malheureusement souvent le monde politique fait ?
En fait, moi, je suis pas élue depuis très longtemps, depuis 2023, et je trouve que depuis le moment où j'ai mis les pieds à l'Assemblée nationale, j'ai l'impression que ces deux, trois dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées dans la prise de conscience, notamment du politique, mais qui se voit peut-être pas à l'extérieur et que les Français voient pas forcément, mais beaucoup de travaux qui ont été mis en œuvre. On a fait, vous le savez peut-être, une commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance. Il y a une commission d'enquête sur l'inceste qui vient de s'achever, donc de nombreuses auditions qui viennent de s'achever. Je travaille actuellement sur les suites de la faire le Squarneck avec trois autres collègues députés et donc pour les crimes sériels, les crimes sexuels sériels à l'égard des enfants. Il y a aussi eu des vrais travaux qui ont été faits sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels à l'égard des mineurs par d'autres collègues. Bref, on est de plusieurs bords politiques, des tas d'élus avec des rapports, avec des préconisations hyper concrètes et je pense qui pourraient être acceptées par tous qui sont sur la table.
Et ça aurait sauvé Liana, pardon, parce que c'est bien de faire des propositions, mais est-ce que toutes ces propositions, que moi je trouve que la plupart des propositions n'ont rien à voir avec l'affaire en question. Rendre imprescriptibles les crimes sur les enfants, c'est peut-être une bonne chose, mais ça n'a rien à voir avec Liana.
Bien sûr, non, mais j'en ai bien conscience. Je pense qu'il y a deux niveaux de réaction à avoir, et c'est ce que j'ai l'impression que le gouvernement essaye de faire. C'est-à-dire, en effet, il y a cette affaire, et je pense qu'on doit à la famille de cette jeune fille de regarder exactement quels ont été les dysfonctionnements en la matière et en l'espèce, et de pouvoir, en effet, prendre que chacun, en tout cas, des acteurs prennent ses responsabilités. Puis il y a un autre niveau qui est de dire comment est-ce qu'on fait que notre société tout entière, que ça soit culturellement, mais aussi évidemment juridiquement, s'il faut changer la loi, puisse prendre conscience de la protection nécessaire de nos enfants, et on n'est pas au niveau. Et donc cette affaire, elle est évidemment, elle trouble tout le monde, mais en effet, je pense, comme vous l'avez suggéré dans votre question, qu'il faut aller au-delà de l'émotion évidemment bien légitime qui est la nôtre aujourd'hui et cette semaine, et qu'il faut qu'on puisse peut-être faire un moment de pause politique et de pause législative pour mettre sur la table tout ce qui existe déjà en proposition, y compris du milieu associatif, et regarder comment est-ce qu'on peut faire porter une grande ambition nationale en matière de protection de l'enfance qui n'aille pas que sur le judiciaire.
Merci Madame la députée, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui au Conseil des ministres. D'ailleurs, le Président de la République s'est exprimé. Alors, il a reconnu, le Président Macron, que la confiance dans les institutions a été ébranlée, mais voilà ce qu'il a ajouté. On ne répond pas à un drame par des cris. La précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur et qui ne sont pas respectueuses. Voilà ce que dit le chef de l'État.
Je sens que vous avez envie de réagir, Elsa Lévy. Bonsoir. Journaliste, auteur de ce livre « En finir avec la prescription des crimes sexuels sur mineurs », édition Autrement. Il ne faut pas aller trop vite.
Oui, alors juste vous disais que ça n'avait rien à voir l'imprescriptibilité. Je ne viens pas pour ce volet en particulier, mais ça a tout à voir en fait. C'est-à-dire que
avec Liana.
Ouais, ce qui se passe avec ce drame, c'est qu'on est en train de. En fait, on met la lumière dessus parce qu'il y a eu un meurtre. Mais en fait, il y a deux crimes dans cette affaire. Il y a le meurtre, mais il y a aussi le viol.
Et avant. Alors pour l'instant, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas on précisément.
Non, mais il y a le viol de Rosa.
Oui, il y a le viol de Rosa.
Ce que je veux dire,
voilà.
C'est qu'on a un criminel qui a déjà commis des crimes. Et on est en train de surréagir un petit peu le gouvernement, la façon dont tout le monde se cristallise autour de ça. Et en fait, il y avait déjà une problématique grave qui a été minimisée. Et je pense que ce qu'il faut vraiment prendre, toute la société doit prendre conscience aujourd'hui de ce qu'est un viol. Et c'est encore un crime qui est extrêmement sous-estimé, minimisé.
Même sur les enfants.
Surtout sur les enfants. Et la collision avec l'affaire Patrick Bruel prend tout. En fait, tout est lié et tout prend un énorme sens en ce moment. Et je pense que le plus grave problème de cette affaire, c'est pas la responsabilité individuelle qu'on va aller chercher sur un juge qui aurait mal apprécié.
Ça peut exister aussi.
Ça peut exister aussi, mais je pense que ce serait vraiment.
Faut pas s'arrêter à ça.
Non, et je trouve que c'est irresponsable de croire que le problème ce serait celui-là. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a probablement des magistrats, vous le saviez mieux que moi, qui sont en sous-effectif, qui sont débordés, et pour qui la priorité, ce n'est peut-être pas de traiter un viol. Et lorsqu'on a Rosa, qui est un cas, mais c'est exceptionnel ce qu'a fait cet enfant. Au bout de 3 mois, elle a réussi à parler. Les parents ont réussi à faire tout. Enfin, ils sont exemplaires. C'est des super-héros. Et on en est quand même là à ne pas avoir réussi. À avoir une société, un système judiciaire, une chaîne qui permet de mettre ce criminel sur le côté, d'estimer que sa dangerosité est sévère et que ce qu'il a déjà fait doit être traité de manière prioritaire.
Mais là, il n'y a pas besoin de nouvelle loi, pardon. Il suffisait simplement de prendre en compte ce que la maman de Rosa disait de la plainte. Il suffisait que le gendarme traite mieux la maman de Rosa plutôt que.
C'est pour ça que je parle de responsabilité.
Et que le parquet de Toulouse mette pas 5 mois avant de se dessaisir. Pardon. Là, je vois pas où le problème.
La loi, par exemple, un truc tout bête, mais les échanges entre parquets.
Un courrier, faire un mail, par exemple. Ça
mais
été
vous voyez
plus
ce que doivent faire les gens pour être entendus dans cette société et être écoutés d'un point de vue judiciaire. En fait, vous parlez du parquet. Pourquoi ne pas créer, comme on l'a fait pour le terrorisme, un parquet qui va centraliser toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, rien que les temps qui sont perdus entre les affaires, c'est des lois, c'est des changements d'application de comment fonctionne de système en fait, de comment l'institution est mal organisée, comment c'est archaïque. Je vois comment le traitement des dossiers est lent et donc les moyens. Donc si le budget, c'est de la loi, c'est-à-dire qu'en fait tout revient toujours au même problème.
Sénateur Iacovelli. Quand le président parle de précipitation et de démagogie, dire qu'on va traiter 70 000 plaintes en 3 mois, dire qu'on va donner un délai de 3 mois aussi pour traiter une plainte pour crime contre les enfants, elle n'est pas là, la démagogie. Elle n'est pas dans le camp simplement des politiques aujourd'hui qui surréagissent.
En tout cas, je vois que la question de la protection de l'enfance et de l'enfance en danger, ça attire maintenant beaucoup les parlementaires qui prennent tous position. On était très peu, je trouve, à crier justement dans l'hémicycle pour reprendre les propos du président de la République. On était très peu à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Laure Miller, effectivement, depuis qu'elle est élue en 2023, fait partie de ces députés qui criaient. Je pense à Aïda Azidae aussi qui porte avec moi cette obligation d'avocat pour les enfants placés. Moi, j'avais porté cette loi sur la fin de la prescription sur les viols et violences sur mineurs. Bon, voilà. Moi, quand j'ai proposé une création de la délégation...
Donc, il faut toujours qu'il y ait un drain pour agir.
Mais c'est le problème. C'est le problème de notre pays.
C'est le problème de notre pays. Non, c'est le problème des politiques.
Non, mais
les Français, je vous dis pas le contraire. Je pense que les Français sont effarés de voir comment ça fonctionne.
Mais je vous dis pas le contraire. Je vous dis juste qu'effectivement, je pense que ça évolue à cause ou grâce à ces drames. Mais moi, je me rappelle en 2022, quand j'ai demandé au Sénat la création d'une délégation aux droits de l'enfant, truc pas révolutionnaire, hein, on m'a dit la délégation aux droits des femmes peut très bien s'en occuper. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, avec l'accumulation des drames et de... Je dirais même pas la libération de la parole, parce que la libération de la parole des enfants, elle a toujours eu lieu. C'est juste qu'on n'était pas capable de l'entendre. De prendre en
alors
compte.
Alors, il faut faire quoi alors, concrètement?
Juste, déjà, il faut appliquer les lois, il faut mesurer effectivement les dysfonctionnements. Je ne crois pas que ce soit un dysfonctionnement structurel et systémique. Je pense que c'est plutôt des dysfonctionnements qu'il faut pointer avec des responsabilités, effectivement, qu'il faut pointer. Mais je ne pense pas que ce soit le système qui est dysfonctionnel. Je pense effectivement qu'il y a eu
des. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça, parce que moi j'ai entendu des gens dire voilà, que c'est systémique.
Chacun a son opinion. Après, qu'on puisse améliorer en la création d'un parquet spécifique aux violences sexuelles sur mineurs, moi je suis tout à fait favorable et j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, je suis pas sûr que ça soit uniquement cette réponse-là. Je pense que les lois sur l'imprescriptibilité, sur l'avocat obligatoire, sur tout ce qu'on essaie de porter avec le peu de parlementaires qui étaient intéressés sur la question de l'enfance en danger depuis des années, oui, ça peut faire évoluer. Ça n'aurait pas empêché, je pense, le meurtre de Liana, mais ça peut sauver un certain nombre d'enfants.
Mais la loi intégrale que certains appellent de leur vœu à être votée, pour ça, il faudrait que le Sénat ne soit pas en vacances au mois de juillet. Vous êtes prêt à renoncer à vos vacances pour la voter, la loi?
Vous savez, moi, ça fait 9 ans que je suis élu sénateur. Ça fait 9 ans qu'on fait des sessions extraordinaires au mois de juillet.
Mais là, il y a les sénatoriales en septembre, donc
il y a la moitié de la France qui n'est pas renouvelable. La moitié des sénateurs qui ne sont pas renouvelables, donc on peut très bien siéger avec la moitié. C'est une décision d'abord du président de la République. Je vous rappelle, c'est pas le président Larcher qui décide.
Non, mais il a dit qu'il y avait des vacances. Ouais.
Non, mais c'est pas le président Larcher.
Si le président Larcher dit au président de la République, il faut qu'on avance.
Je ne connais pas l'état de leur discussion. Je vous dis juste que je pense que dans la situation actuelle,
le président Larcher a très envie d'être en vacances.
S'il y a un besoin effectivement d'avoir, je suis pas sûr que le président Larcher a besoin d'être en vacances. C'est pas. Je pense pas qu'on est obligé de caricaturer la position du président Larcher. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement d'avancer, que ça soit du réglementaire ou du législatif. On a besoin d'avancer. Et s'il faut effectivement que le Parlement siège au mois de juillet, je pense qu'il y a aucun sénateur qui contestera le fait de siéger.
Béatrice Bougère nous a rejoint. Bonsoir, magistrat, secrétaire général du syndicat Unité Magistrats FO. Ça vous choquerait pas que des magistrats soient sanctionnés durement dans cette affaire ?
Moi, j'ai aucun problème sur la responsabilité. Je pense que c'est un principe très sain que ceux qui ont du pouvoir rendent des comptes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Il n'y a pas que les magistrats. Hein. D'ailleurs, c'est toute une chaîne pénale. On verra qui et quoi. Moi, j'ai pas de problème sur le principe, justement. J'ai un problème sur le fait d'aller trop vite et de jeter en pâture. Ça, par contre, ça me pose un problème. Le côté bouc émissaire, on jette tout de suite en pâture. Oui, quand on écoute, il y a apparemment des choses qui interrogent. Mais attendons de voir ce rapport. Hein. Je crois qu'on doit être à 10 jours de la fin du rapport. On peut quand même attendre 10 jours avant justement de tirer des conclusions.
Mais on sait qu'il y a très peu de sanctions. Pardon, Béatrice.
Alors c'était un autre sujet dans le sujet. Donc vous me posez la question si moi j'ai un problème sur la responsabilité. Non, je n'en ai pas. Même je pense que c'est j'ai écrit un livre, vous le savez peut-être, qui s'appelle Les juges ont-ils vraiment tous les droits, où j'interroge nos mécanismes et nos fonctionnements et j'appelle même encore à une réforme du Conseil supérieur de la magistrature et notamment un code disciplinaire, ce que d'autres pays ont. Je pense à l'Italie, je pense au Danemark aussi. C'est-à-dire que si on veut vraiment un régime de responsabilité qui s'est invité dans ce débat, mais qui n'est pas le seul sujet, hein, on est bien d'accord, faut-il encore que les règles soient claires, c'est-à-dire que l'on sache, nous aussi, ce qu'on nous reproche et ce que l'on encourt. Ça évite tout arbitraire ou tout flou. Voilà, donc ma position, elle est assez simple.
Est-ce qu'il faut un parquet national en charge des crimes?
Et c'est pas le cas, on n'a pas de code disciplinaire, voilà, je termine là-dessus.
Mais est-ce qu'il faut un parquet national en charge des crimes sexuels contre les enfants, comme il y a un parquet national antiterroriste, un parquet national sur les affaires financières?
Alors moi, je suis tout à fait... excusez-moi, vous avez le droit d'avoir cette...
Vous êtes opposée.
Oui, je suis opposée parce qu'en fait, et on le voit très bien, plus on est loin du terrain, plus c'est compliqué, plus c'est administratif, plus c'est bureaucratique.
Même.
Oui, mais vous avez dit national.
Okay. National, ça veut dire qu'il faudrait refaire monter toutes les affaires à Paris.
Mais régional, ce serait encore mieux.
Non, mais moi j'ai entendu national, mais j'ai peut-être mal entendu. Mais d'accord, pardon. Alors autant pour moi, si c'était régional, je suis pas du tout opposée à une refonte totale de l'organisation et. Dans cette refonte, il y a une question en effet de taille et de RH et l'idée d'avoir des pôles spécialisés avec des parquets régionaux au regard, si on ne se trompe pas d'objectif, de ce que c'est que la pédocriminalité. Oui, je pense que ça a un sens parce que c'est pas 70 000 dossiers. Hein. En vrai, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Et on le sait. Avec
et lorsque maître de Buisson dit hier, l'avocat de la mère de Rosa a dit qu'il y a des juges paresseux qui font pas leurs heures.
Des enquêteurs feignants.
Je vais vous répondre, mais dans tous les corps, il y a des gens qui ne font pas leur travail. C'est pour ça que je n'ai aucun problème sur la question de la responsabilité. Je redis encore, j'ai un problème. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai un problème sur la question du bouc émissaire. C'est pas tout à fait pareil.
Et donc, tout le monde, précipitation.
Et tout le monde aura des responsabilités. Mais soyons sereins, il y a une émotion. Moi, j'ai dit, c'est le temps du deuil, respectons ce temps-là. Tout de suite, on est arrivé sur quelque chose de très politique, et c'est très français, et c'est comme ça. En revanche, je pense que si on veut vraiment prendre au sérieux ce sujet, qui est à mon avis, le sujet majeur, et qui intéresse toute la société, pour le coup, parce que ça touche toutes les classes sociales, hein. Les mineurs, c'est pas que dans certaines classes sociales. Alors oui, il va falloir prendre tous vos rapports, faire quelque chose de très ambitieux, et une fois qu'on aura déterminé notre ambition, mettre les moyens qui vont en face. Et ces moyens...
C'est la vraie révolution, c'est arrêter de travailler en silo aussi.
Et ces moyens, ils sont pas que...
Parce que l'argent, il est là. Hein.
Non, mais ils sont
l'argent,
pas que...
en fait, la réalité, c'est que ça soit sur la protection de l'enfance, que ça soit sur la justice, sur la police, on a mis les moyens. Sauf que le problème, c'est que chacun travaille dans son coin.
Je finis justement ma phrase. Ces moyens, ils sont pas juste « je veux des moyens ». Ils sont stratégiques, ces moyens. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on monte en gamme sur notre méthode de travail, sur la modernisation. C'est pas plus de magistrats, c'est mieux travailler. C'est pas tout à fait ce que je voulais. C'est pour ça que je voulais dire.
Ce sera évoqué ce soir justement dans une émission spéciale en direct sur BFM TV avec bon nombre de personnalités. Maxime Souhaitec sera là et puis regardez Sarah Knafo, Olivier Faure, Jean-Philippe Tanguy, Marine Tondelier, Bruno Retailleau, Mathilde Panot et Gabriel Attal. Quelle réponse au fiasco ce soir en direct, Maxime Souhaitec.
Bon courage.
Animé par Apolline de Malherbe et Maxime.